Lucrèce De Natura Rerum, livre 6, Les phénomènes terrestres. Tout s'explique aisément par les causes premières. Les corps simples, leurs formes et leurs combinaisons, les tremblements de terre ont aussi leurs raisons naturelles. Avant d'en sonder le mystère, conçois bien que, dessous comme dessus, la terre, pleine de vent, de lacs, d'antres, porte en ses flancs des vides spacieuses et des rochers croulants. Des fleuves enfouis sous son vaste dos coulent, et ses débris s'en vont en des flots qui les roulent. Partout, elle est la même, et cela va de soi. De là, ces soubresauts terribles dont les mois montent des profondeurs et s'étalent en désastres. Quand des cavernes l'âge a sapé les pilastres, il tombe alors des monts tout entiers, et, rampant dans l'ombre, la secousse en tous sens se répand. Pourquoi non, l'humble poids d'un chariot qui passe ne fait-il pas vibrer les maisons et l'espace? Et les murs, quand le char court sur l'arène, au pas des vigoureux coursiers, ne tressaillent-ils pas, secoués par le fer dont la roue est armée? Parfois, dans une mer souterraine abîmée, quelques tranches de terre immense, brusquement, de vétusté s'affaissent, et sous le mouvement des eaux, le globe ému vacille. Tel un vase qu'on emplit se soulève et frémit sur sa base, tant que le flot qui tombe ondule entre ses bords. Il se peut que, soudain concentrant ses efforts, l'ouragan prisonnier dans les cavernes fonde sur une des parois de sa prison profonde. Alors la terre penche ou l'incline le vent, et dans le même sens elle porte en avant les murs et les palais qui couvrent sa surface. Plus ils sont près du ciel, plus leur fête menace. Les poutres hors d'aplomb, prêtes à s'en aller, pendent. L'on tremble à voir de tels blocs s'ébranler, que l'heure n'est sonnée du désastre suprême. L'heure où la mort attend la nature elle-même. Et certes, si parfois le vent ne respirait dans ce néfaste élan, quel frein le contiendrait? Mais il faut qu'il respire. Il prend du champ, se lance, retombe, et le recul use la violence. C'est pourquoi la menace avorte bien souvent. La terre qui penchait, bientôt se relevant, reconquiert l'équilibre où son poids la ramène. Mais tu comprends pourquoi l'action souterraine, au toit moyen ou bas, épargnant les assauts, se fait sentir surtout aux faîtes les plus hauts. Il peut se faire encore que, venu de l'espace, ou formé sous la terre, un tourbillon s'amasse dans les vides, et là, grondant, roulant au fond des cavernes, se rue en tumulte. D'un bond, la force accumulée éclate et, triomphante, ouvre quelques soudaines et formidables fentes où le Péloponnèse en deuil voit s'engloutir Égium ou Périssidon, la sœur de Tyr. Éruption des vents, d'effondrement suivi, à la clarté pour vous, que de villes ravies, que de murs, de remparts puissants précipités dans les abîmes noirs, que d'antiques cités avec leurs citoyens dans la mer descendue. Et si dans l'épaisseur de la terre perdue, les haleines des vents n'ont pu crever le sol, par les mille conduits qui divisent leur sol, rampe un frisson qui monte et s'épand dans les plaines, tel un froid pénétrant qui du fond de nos veines gagne et fait malgré nous grelotter notre chair. Sous la terre, épouvante, épouvante dans l'air, là-haut les toits, en bas les antres, la nature veut-elle en quelque énorme et subite aventure enfouir ses débris pêle-mêle croulants et combler de son corps l'abîme de ses flancs? Bien qu'une foi tenace à la foule réponde de l'immuable et sûre éternité du monde, il a de tels dangers que leur vue, en plein cœur, enfonce on ne sait quel aiguillon de terreur. La terre brusquement sous les pieds se dérobe, l'univers trahi croule à la suite du globe, De fond en comble, amas confus, gouffres béants, et l'on sent le grand tout rentrer dans le néant. Expliquons maintenant pourquoi la mer ignore l'accroissement. Quoi donc? Tant d'eau qu'elle dévore, ses fleuves dans son lit tombant de toutes parts, ses vols de tourbillons et d'orages épars, d'où la pluie à torrents sur le monde ruisselle, ses propres réservoirs, enfin, tout coule en elle, et chose étrange, rien n'élève son niveau. Et, près de l'océan que sont ses trésors d'eau pour grossir l'infini des mers, moins qu'une goutte, voilà de quoi bannir la surprise et le doute. En outre, le soleil boit l'onde. Nous voyons les tissus trempés d'eau séchés par ses rayons. Sa puissante chaleur, au même instant, visite les surfaces de mer sans nombre et sans limite, si peu qu'il en aspire en chaque région. Sur un si vaste champ, l'évaporation totale se mesure à l'ampleur du volume. Joins-y ce que le vent peut emporter d'écume en balayant les flots. Dans une nuit, souvent, les chemins inondés sont séchés par le vent et la fange liquide en écorce est figée. Songe aussi que les eaux dont la nuée est chargée, qu'elle disperse en pluie au gré des aquilons, elle les prend aux mers pour les rendre aux sillons. Combien n'en faut-il pas pour arroser le monde? Enfin, le sol poreux en lacunes abonde. Par le fond et les bords, la terre étreint les mers, en épanchant ses eaux dans les gouffres amers. Elle reçoit les leurs, les filtre, et toute neuve les ramène en arrière à la source des fleuves, d'où leur flot pur reprend les chemins, qu'à leur cours, leurs pieds, cristal fluide, ont creusé pour toujours. Nous passons au volcan. Lorsque par intervalle des bouches de l'Etna tant de flammes s'exhalent et tant de tourbillons, que les peuples hagards sur les champs de Sicile attachant leurs regards devant le ciel fumeux traversé d'étincelles, se demande, le cœur plein d'angoisse mortelle, si la nature va refondre l'univers. Ces tempêtes de feu qui montent dans les airs ne sont pas, crois-le bien, par un prodige écloses. Il faut ici porter sur le monde et les choses un coup d'œil vaste et clair, vraiment universel, songeant que le grand tout est infini, qu'un ciel est un fragment infime, un chiffre dans la somme, et quel atome enfin près de la mer est l'homme. Prends cette vérité pour mesure et pour toi. Combien d'étonnements s'enfuiront devant toi? Qui de nous est surpris quand un homme s'agite dans le brûlant transport d'une fièvre subite ou de tel autre mal endure les tourments? Le pied gonfle soudain? De vifs élancements attaquent la gencive, entrent dans les yeux même. Le feu sacré s'allume et s'insinue et sème l'incendie, et partout rampe en brûlant la chair. Qui s'en étonne? Il est tant de germes dans l'air. Et sur la terre assez d'exhalaisons funestes pour nourrir aisément les plus terribles pestes. C'est ainsi que l'espace où nous sommes plongés fournit au globe assez d'éléments étrangers pour que la terre au loin tremble, pour que la trombe rapide sur les champs et les mers vole et tombe, pour que l'Etna flamboie et que l'air prenne feu. Oui, quand les corps ignés s'y pressent en un lieu, l'air brûle, comme il crève en plusieurs orages quand les germes aqueux surcharge ces nuages. Quoi, dans ces tourbillons de flammes, rien de plus, dans ce désastre unique? Un ruisseau, même Mammius, pour qui n'a jamais vu de derrière, rivière est un fleuve. Nous en usons ainsi pour toute chose neuve, tout s'exagère, un arbre, un homme, Et ce qu'on voit est toujours le plus fort et le plus grand qui soit. Hélas, la terre entière, avec les cieux et l'onde, ne compte pas devant l'immensité du monde. Expliquons maintenant ces accès furieux que des flancs etnéens crachent la flamme aux cieux. La montagne d'abord est creuse. Des murailles de silex, seul appui de ses vastes entrailles, emprisonnent du vent et de l'air, car le vent n'est que l'air agité. Lorsque cet air mouvant qui tournoie et s'échauffe et sourdement s'embrase, a, des parois qu'il bat et des rochers qu'il rase, tiré la flamme au vol indompté, tout à coup il se dresse, il jaillit des fournaises, debout, versant au loin le feu, les cendres enflammées, roulant dans l'épaisseur opaque des fumées, des rocs monstrueux, poids dont le jet montre assez l'intensité du vent qui les a déplacés. D'ailleurs, presque en tous sens, au pied du monticule, la mer brise son flot qui s'avance et recule. Là s'ouvrent des conduits qui des sables marins montent jusqu'au sommet. C'est dans ces souterrains que le vent s'insinue, et par d'étroits passages s'élance en tourbillons de flammes, en nuages de poussière et de rocs épars. Ô démons, ces vases vers les cieux, ces puits, que nous nommons les bouches du volcan, soupiraux de la terre, dont les Grecs ont nommé l'orifice cratère. Mais parfois, dans le doute, il faut donner d'un fait plusieurs motifs, dont l'un s'est produit en effet. De loin, tu vois un corps gisant, il est sans vie. Mais peux-tu prouver comment l'âme lui fut ravie? Froid, maladie ou fer, poison peut-être? C'est quelqu'une de ces morts, mais laquelle on ne sait. Il te faut donc compter avec toutes ces causes. C'est ce que nous ferons pour beaucoup d'autres choses. Pourquoi l'unique fleuve égyptien, le Nil, grossit-il en été? Pourquoi déborde-t-il juste quand les chaleurs ont desséché les plaines? Peut-être l'Aquilon, raidissant ses haleines, debout au seuil des mers, l'arrête et le remplit du reflux de ses flots refoulés dans son lit. C'est la saison des vents éthésiens. Leur course, partant comme l'on sait des cieux glacés de l'ours, directement s'oppose au progrès de ces eaux qui, parmi les tribus australes, noirs troupeaux humains, tout pénétrés des flammes du tropique, coulent du sein profond de la brûlante Afrique. Ou bien, lorsque les vents fouillent le fond des mers, le sable soulevé s'amoncelle en travers du fleuve. L'estuaire est barré. L'onde accrue, moins libre, cherche en vain dans le lit qui s'obstrue la pente nécessaire à son écoulement. Peut-être encore la source enfle subitement le souffle éthésien vers ses lointains parages, poussant les condensants, les amas des nuages et broie au flanc des monts son pluvieux fardeau, qui sous le poids s'écroule et crève en torrent d'eau. Enfin l'ardent soleil, qui fait des cimes blanches descendre sur les champs la neige en avalanche, peut bien déterminer ces inondations que la Nubie envoie au sol des pharaons. Abordons maintenant ces lugubres cavernes, ces régions d'horreur, ces lacs nommés avernes, parce que les oiseaux y sont frappés de mort. En approchant ces lieux, l'aile perd son ressort. Inerte, brusquement, sa voile se replie, et comme un soucieux des rames qu'il oublie, la tête apesantie et pendante, l'oiseau s'abat précipité sur la terre ou dans l'eau, si la Verne est un lac comme celui de Cume. Au pied du mont Vésuve, où deux jets de bitume versent des flots épais de leur courant mortel, Athènes, dans ses murs, et proche les autels d'où Pallas Tritonis sur l'acropole veille, a le sien, que jamais ne franchit la corneille, même que l'encens pur fume dans l'air, non pas pour dérober sa vie au courroux de Pallas, que l'oiseau vigilant a jadis offensé. Les Grecs ont mis en fer ces fables, mais chassés par la sourde terreur qui plane sur ce bord. La Syrie, on le croit, a de ses champs de mort. Les quadrupèdes même en leur vapeur succombent. À peine ont-ils foulé le sol fatal, ils tombent comme sacrifiés aux mânes. Mais tu sais le secret du pouvoir qui les a terrassés. À la clarté des faits mêleras-tu des ombres, des mânes, attirant au bord de fleuves sombres par ces portes d'enfer les ailes des vives âmes des vivants, comme on nous dit parfois qu'en aspirant les vents, le cerf aux pieds ailés, du fond de leurs asiles, évoque sur ses pas les tribus des reptiles. Fable que la raison répudie et confond. Mais la chose, après tout, vaut qu'on en traite à fond. Je te rappelle donc qu'on trouve dans la terre des germes de tout ordre et de tout caractère, germes vivifiants, morbides ou mortels. Nous avons établi déjà que tels ou tels, selon la dissemblance ou l'accord de leur type et les combinaisons multiples des principes, conviennent plus ou moins aux divers animaux. Il en est et beaucoup qui blessent les canaux de l'oreille ou de l'œil. Il est des simulacres dont la langue et le nez craignent les senteurs âcres, des contours dont le choc ne va pas sans danger. L'homme de toutes parts se voit donc assiégé, chaque sens est en but à des douleurs sans nombre. Tout d'abord, on connaît certains arbres dont l'ombre mauvaise à qui s'endort, couchée sur le gazon, distille dans la tête un lancinant poison. Sur le haut hélicon pousse une fleur fatale. Ne la respire pas, c'est la mort qu'elle exhale. Partout montent au jour, sous mille aspects divers, mille éléments des corps qui peuplent l'univers. Et la terre dont le sein les porte pêle-mêle, gardent leur composé, leur force originelle. Parfois, l'homme couché, qui respire en dormant la vapeur de sa lampe éteinte, brusquement, comme frappé d'un mal stupéfiant, se pâme. L'âpre castoreum est funeste à la femme, surtout à certains jours que lui rend chaque mois. Ses membres engourdis s'affaissent et ses doigts tendres laissent couler leurs gracieux ouvrages. Combien d'autres agents détendent nos rouages et vont opprimer l'âme au plus profond du corps. Le bain après l'orgie a causé bien des morts. Que d'estomacs trop pleins au bord d'une piscine, dans un peu d'eau trop chaude ont trouvé la ruine. Que l'étouffante odeur du charbon, faute d'eau, facilement pénètre et remplit le cerveau. Lorsque la fièvre ardente un malade est en proie, le seul fumet du vin, comme un choc, le foudroie. La terre abonde en soufre, et de ses profondeurs tire le noir bitume aux puissantes odeurs. Que de feux elle exhale, et que de funérailles pour celui dont le fer explore ses entrailles. Son or et son argent sont des empoisonneurs. Quelle face, quel teint rapportent les mineurs? Tu les as vus. Tu sais que plus d'un ne vit guère qu'une rapide mort clôt le destin précaire des malheureux voués à de si durs labeurs. Mais la terre ne peut garder tant de vapeurs. Il lui faut les vomir en dehors, dans l'espace. C'est ainsi que leur force abat l'oiseau qui passe. Un nuage invisible et pestilentiel au-dessus de la verne empoisonne le ciel. L'être ailé que son vol amène au bord du piège embarrassé dans l'air vénéneux qui la siège, tombe, où l'exhalaison impérieuse attend ce qui reste de vie en ce corps palpitant. Car la chute d'abord n'est que l'effet d'un spasme, c'est en bas, dans la forge, aux sources du miasme, que le souffle vital, à jamais endormi, cède à l'intensité du fluide ennemi. Il se peut bien aussi que cette gueule avide, de la terre à l'oiseau, fasse presque le vide. À peine a-t-il touché à l'air raréfié, qu'il sent fléchir l'espace auquel il s'est fié. Son fol vol désemparé lutte en vain, il chancelle. Rien n'offre plus de prise au double effort de l'aile. Le support et l'appui, tout lui manque à la fois. Déjà tout épuisé par le vide, son poids le jette sur la terre, où l'essence vitale par les pores ouverts se disperse et s'exhale. Les puits semblent plus froids en été qu'en hiver. C'est que la terre aride expulse et rend à l'air tout germe calorique attardé dans sa masse. Plus forte est la chaleur qui raye à sa surface, plus la fraîcheur des eaux souterraines s'accroît. Quand le sol comprimé, resserré par le froid, s'épaissit dans les puits, la terre condensée exprime la chaleur en ses flancs amassés. La fontaine d'amont dont on fait tant de bruit, froide pendant le jour, devient chaude la nuit. Contre toute raison, les amis du mystère veulent que le soleil les chauffe dessous terre, quand l'ombre a déployé son ténébreux manteau. Quoi? Les rayons du jour s'épuisent sur cette eau sans pouvoir les chauffer, cela dans le temps même où l'astre au ciel jouit de son pouvoir suprême. Et le terrestre bloc, épaisse profondeur, laisserait jusqu'à l'eau pénétrer leur ardeur. Quand sur un simple mur usant leurs forces vaines, leurs feux dans nos maisons se font sentir à peine. Cherchons d'autres raisons. Cette onde a pour ses jours un terrain plus poreux qu'ailleurs, et tout autour les semences de feu dornent en plus grand nombre, et la nuit vient, plongeant tout dans la fraîcheur et l'ombre, et le sol refroidi se contracte soudain comme un corps spongieux pressé par une main, dans la source exprimant cette chaleur diffuse que le toucher signale et que le goût accuse. Puis quand, sur les rayons du soleil renaissant, dans le sol dilaté la chaleur redescend, l'eau renvoie à ce sol par les mêmes issues les semences de feu qu'elle en avait reçues, et la source reprend sa fraîcheur jusqu'au soir. D'ailleurs, sous les rayons que l'astre y fait pleuvoir, l'onde aussi se dilate, ouverte et remuée, et la chaleur s'échappe en tremblante buée, comme fait au printemps la froidure quand l'eau de ses liens de glace s'écarte le fardeau. Une autre source froide en merveilles abonde. On voit flamber soudain au contact de son onde l'étoupe et la résine. Et le reflet mouvant sur le miroir qui fuit nager au gré du vent. Il faut qu'elle soit riche en semences ignées, et que d'autres du fond de la terre émanées, fendant l'eau d'outre en outre, émergent au dehors, assez chaudes en bloc, pour enflammer ses corps. Mais non pour échauffer cette épaisseur fluide. Sans doute que sous l'onde, une force réside dont l'impulsion chasse et rassemble dans l'air les germes plus légers. Telle au sein de la mer, jaillit près d'Aradus une source d'eau douce, inaccessible au sel des flots qu'elle repousse. Tels ces jets que la mer en d'autres régions conserve toujours purs de ses contagions, à la soif des marins, précieuses ressources. Ainsi doivent monter à travers notre source les atomes brûlants dans l'eau disséminée, qui, mêlés dans l'espace aux éléments innés, que la torche et les toupes enferment dans leur trame, rien qu'à toucher ces corps, en font jaillir la flamme. Le flambeau qu'on éteint, vivement approché d'une lampe, s'allume avant d'avoir touché la flamme. Que d'objets s'enflamment à distance, et par le seul effet de la chaleur intense, sans l'atteinte du feu. Mais c'est ce qu'on voit, et le cas de la source est explicable ici. Maintenant, Memmius, il est temps que j'explique quel pacte unit le fer au métal magnétique appelé par les Grecs Magnès, en souvenir des lieux auxquels échut l'honneur de le fournir. Cette pierre a le don, que les humains admirent, de former une chaîne où des anneaux s'attirent, l'un sous l'autre attachés sans lien apparent. On en voit parfois cinq et plus, tombant en rang, pendre et flotter au gré de la plus faible brise, échangeant à l'envi la pression transmise qui de la pierre en deux coule indéfiniment, si tenace est le trait continu de l'aimant. Mais avant d'attaquer de front un tel problème et d'atteindre le fait dans son principe même, il faut des jalons sûrs, il faut de longs détours, alors ouvre plus que jamais l'oreille à mes discours. Et d'abord, des objets que nous voyons s'échappent, éveillant le regard au fond de l'œil qu'il frappe, des atomes sans nombre épanchés de leur bord. L'arôme se dégage aussi de certains corps, tout comme la fraîcheur émane des fontaines, du soleil la chaleur et des liquides pleines, un bouillonnement rude aux murs rongés des mers. Dans l'oreille, en vibrant, passent les sons divers. Lorsque nous distillons l'absinthe, il s'en élève un goût amer. Souvent, quand nous logeons la grève, il nous vient à la bouche une saveur de sel. Tant il est vrai qu'un flux constant, universel, en tout lieu projeté, coule de toutes choses, flux qui jamais n'arrête et jamais ne repose. Les sens sont toujours prêts. Jamais nous ne cessons de sentir des odeurs, des formes et des sons. Secondement, tout corps est poreux. Certitude, mise dans tout son jour au seuil de cette étude, de mille vérités indéfectibles appuient et si liées au fait que j'aborde aujourd'hui qu'on ne peut trop défendre un concept si solide. Rien n'existe, sinon des corps mêlés de vide. Goutte à goutte, suintant des rocs supérieurs, l'eau transpire aux parois des autres. Les sueurs filtrent sous les tissus des chairs et les traversent. La barbe et le duvet sur tous nos membres percent. Le suc des aliments, charrié par le sang, jusqu'aux extrémités, jusqu'aux ongles descend. Le chaud comme le froid dans les reins se propage. Dans l'or et dans l'argent, nous sentons leur passage. Quand le cratère plein de glace où brûlent nos doigts à travers l'épaisseur des murs entre les voies qui voltigent, l'odeur, le froid, la vapeur tiède du feu, devant le feu, le fer lui-même cède. Quand même une cuirasse enfermerait le corps, la maladie aussi s'infiltre du dehors. Quand de la terre au ciel la trombe emplit l'espace, brusquement suscitée, aussi vite elle passe, force donc que partout des ports soient ouverts. Mais tous les éléments dispensés dans les airs, sur les différents corps diversement influent, ils conviennent aux uns, les autres les excluent. Le soleil cuit la terre et la dessèche, mais il relâche la glace, et sur les hauts sommets résout en eau l'amas de la neige hivernale. La cire à ses rayons s'amollit et s'étale. S'il contracte les chairs et racornit la peau, le feu rend l'or liquide et fond les reins. Si l'eau trempe au sortir du feu la lame refroidie, elle assouplit la peau par la chaleur raidie. La feuille d'olivier semble au chevreau barbu un mets tout d'ambroisie et de nectar imbu, et rien n'est plus amer à des lèvres humaines. Le pourceau craint, il fuit l'odeur des marjolaines. Les parfums les plus doux sont pour lui des poisons. Ces parfums par lesquels souvent nous renaissons. La fange est à nos yeux une exécrable ordure. Elle semble au pourceau plus nette que l'eau pure. Il s'y lave, il s'y vautre insatiablement. Mais avant d'en venir aux vertus de l'aimant, établissons encore un important principe. Les ports ne sont pas construits sur un seul type. Ces canaux à l'échange ouvert sur tous les corps ont chacun leur emploi, leur genre de transport. Chaque sens n'a-t-il pas sa nature et sa sphère ? Chez eux, l'impression comme l'objet diffère. L'un n'admet que les bruits, l'autre que les odeurs. Un autre sait des sucs extraire les saveurs. Quelle variété de trames, de matières ! Telle émanation passe à travers la pierre, telle à travers le bois, le verre ou le métal. L'image, par exemple, à travers le cristal, la chaleur à travers l'argent et l'or, et toutes, selon leur force propre et l'office des routes que partout la nature ouvre au flux du dehors, plus ou moins promptement cheminent dans les corps. Établis, confirmés et mis hors de conteste, ces principes d'avance ont éclairci le reste. La tâche désormais est aisée, et l'attrait qui fascine le fer dans sa cause apparaît. Il faut que de l'aimant mille effluves s'écoulent, dont le tourbillon chasse et dont les chocs refoulent l'air qui s'interposait entre le fer et lui. Dès que le vide est fait, dès que l'air s'est enfui, les éléments du fer sont projetés en masse et sans se désunir. L'anneau qui se déplace reste entier dans sa chute et suit le mouvement. Car il n'est pas de corps tissu plus fortement, pas de cohésion, de nœud plus invincible que la froide raideur du fer incoercible. Ne sois donc pas surpris de voir l'anneau, suivant les atomes en foule attirés en avant, dans le vide lancer sa rondeur tout entière. Ce qu'il fait jusqu'aux bords de la puissante pierre. Un aveugle lien l'y fixe et l'y suspend. L'action se produit partout où se répand le vide. Soit d'en haut, soit de flanc, elle entraîne le chaînon le plus proche et l'ajoute à la chaîne. Sans ce concours de chocs extérieurs, le fer ne pourrait pas monter contre son poids dans l'air. De plus, ce qui l'allège et l'accélère encore, tandis que l'air d'en haut, plus rare, s'évapore, l'air d'en bas se dilate et s'élève, chassant par derrière l'anneau vers le vide croissant. Toujours l'air bat les corps que baigne son fluide, mais sa force, doublée au moment où le vide ouvre un espace libre au progrès des anneaux, pénétrant dans le fer, parmi les trois canaux, aux fibres du métal, fait sentir son empire comme un vent favorable aux voiles du navire. Les corps, d'ailleurs, sont pleins de pores et de trous. Baignés par l'air, il faut qu'ils en enferment tous, puisqu'à tous leurs contours, l'air confine et s'applique. L'air qui se cache au fond du tissu métallique s'agite incessamment dans son rigide étui. Il ébranle le fer et s'élance avec lui. Ainsi la pression intime coïncide avec tous les efforts qui tendent vers le vide. On voit aussi le fer s'éloigner de l'aimant, ou le suivre et le fuir alternativement. Dans l'airain, je l'ai vu, le fer de Samothrace. La limaille s'affole et bondit si l'on place un aimant sous le vase. À ce point qu'on dirait d'un véhément dégoût luttant contre l'attrait. Cet airain s'interpose et rompt la sympathie par ses exhalaisons, la place est investie. L'aimant déçu, trouvant les interstices clos, frappe, monte, s'acharne, et le choc de ses flots chasse à travers les reins la substance infidèle qui l'attirait quand rien ne le séparait d'elle. Ne sois pas étonné que sur les autres corps la vertu de l'aimant s'émousse. Les uns, forts de leur poids, tels que l'or, demeurent impassibles. D'autres, tels que le bois, percés comme des cribles, ouverts sans résistance aux atomes ailés, laissent passer leur vol sans en être ébranlés. La nature du fer est intermédiaire. Quand les vapeurs du bronze imprègnent sa matière, les afflux aimantés et de leurs chemins exclus doivent pousser le corps qui ne le traverse plus. Mais ces affinités, ces rapports de structure ne sont pas à ce point rares que la nature n'en présente beaucoup et d'aussi singuliers. Vois comme par la chaux les moellons sont liés. Vois la colle de bœuf et les ais qu'elle enchaîne. Le bois éclaterait plutôt par quelques veines que de rompre le nœud du subtil scellement. Le vin dans l'eau versée s'y mélange aisément, mais non la poix, trop lourde ou l'huile trop légère. Le murex à la laine étroitement adhère. La pourpre indissoluble à chaque fil se joint. Et Neptune obstiné ne la déteindrait point. Non, dit-il, jusqu'au fond vide et son gouffre énorme. Mêlé d'étain, le cuivre en airain se transforme. Le mercure au contour incruste et fixe l'or. Que d'exemples pareils, je citerais encore. Mais en ces longs détours, pourquoi m'attarderais-je? Tu n'en as pas besoin. Il est temps que j'abrège en formulant la loi qui régit ces accords. L'amalgame complet s'opère entre deux corps, quand le vide s'oppose au plein, le plein au vide, ou qu'entre leurs tissus un système solide de crochets et d'anneaux s'engraine intimement. Et c'est ici le cas du fer et de l'aimant.